Merci beaucoup, Boris, pour cette lecture, cette longue lecture. Mais je pense que ça vaut la peine. J'espère que vous allez voir ce que nous allons essayer de découvrir ensemble sur le plan de ce que je vais dire, ce qui se trouve sur le dos de votre livret. C'est utile toujours d'avoir ce texte sous les yeux, surtout les parties qu'on n'a pas pu lire parce qu'on va parcourir l'ensemble, si vous voulez bien. Alors, peut-être vous êtes d'accord avec moi que parfois, ça prend du temps, beaucoup de temps, pour pouvoir voir clair sur un sujet ou sur un autre. Combien de temps nous faut-il, les amis, pour bien comprendre les leçons de la pandémie COVID-19? Faire une analyse sans le bénéfice du recul est trop limité dans sa portée. C'est clair, n'est-ce pas? Qu'en est-il du changement climatique? Selon les experts, contrairement aux titres sensationnalistes alimentés par les médias, la complexité des données est telle qu'il faut un recul de plusieurs centaines, voire des milliers d'années pour pouvoir être sûr de ce qui se passe. Pour l'invasion des forces américaines et occidentales au Vietnam, et peut-être plus récemment en Afghanistan, ce n'est qu'avec du recul que nous voyons à quel point de telles initiatives étaient vouées à l'échec. Demandez aujourd'hui si la colonisation d'Afrique était une bonne chose, et à quasi 100% d'unanimité, on dirait non, j'imagine, ce matin. Mais si nous avions posé cette question il y a 100 ans lors d'une telle assemblée, cette même assemblée n'aurait pas donné la même réaction. Parfois, il faut du recul pour voir clair. Est-ce une bonne chose pour Jacob de quitter Canaan avec toute sa famille pour rejoindre son fils favori Joseph, qui est devenu depuis lors le premier ministre de toute l'Égypte? Peut-être vous dites, ça c'est une décision plutôt facile. Il y avait de la famine en Canaan, non? Oui, mais attends, que s'est-il passé lorsqu'Israël, le peuple dont Jacob est le père, voilà pourquoi dans le texte que nous venons de lire, on l'appelle parfois Jacob, parfois Israël. Pour qu'est-ce qui s'est passé à Israël lorsque Israël demeure en Égypte? Si on connaît l'histoire un peu plus loin, c'est qu'Israël devient esclave aux Égyptiens. Moïse est l'auteur de ce récit, nous venons de lire, et lui, il écrit, bien entendu, après la délivrance d'Israël de l'esclavage en Égypte. Ils sont maintenant, lorsque Moïse écrit, en marche vers la terre promise une nouvelle fois. Est-ce que Jacob aurait pu imaginer, lui, qu'il allait prendre 430 ans avant que le peuple d'Israël revienne? Bien sûr que non. Il n'aurait pas pu imaginer cela. Lui, il pensait en partant, comme Joseph qui a eu le rêve, que la famine ne durerait rien que 5 ans de plus. Mais au moment où Moïse, lui, il écrit ce texte, il voit que oui, c'était la volonté de Dieu qu'Israël aille en Égypte. Et c'est bien en Égypte que le livre de la Genèse termine. Et chose donc étrange et inattendue, c'est en Égypte et pas en Canaan que les promesses de Dieu, dont nous avons déjà évoqué ce matin, commencent à se réaliser. Parce que les promesses de Dieu se réalisent dans des endroits inattendus. Et du coup, notre premier point, vous voyez ça sur le livret, est celui-ci. N'ayons pas peur d'être des étrangers, même si cela a l'air d'aller à l'encontre des promesses de Dieu. Dans le premier paragraphe du chapitre 46, Dieu se révèle une nouvelle fois à Jacob. À Israël. Dieu, présent, si vous voulez, à l'arrière-scène du récit de la Genèse depuis le chapitre 37, maintenant il revient sur le devant de la scène. Et il dit, Jacob, Jacob. Et celui-ci répondit, je suis là. Verset 3, il reprit, je suis Dieu, le Dieu de ton père. N'aie pas peur de descendre en Égypte, car c'est là que je te ferai devenir une grande nation. Verset 4, il le rassure, je descendrai moi-même avec toi en Égypte, et je t'en ferai moi-même monter. Et Joseph te fermera les yeux de sa propre main. Donc Jacob, il peut partir en Égypte en paix. Il peut faire face à un avenir en tant qu'étranger dans un pays avoisinant, un pays qui ne connaît pas le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui n'adore pas le Seigneur, car c'est bien là, en Égypte, où Dieu va accomplir ses promesses envers Abraham. C'est là, dit-il, que je te ferai devenir une grande nation. Là, en Égypte. Si par la foi en Jésus-Christ, vous faites partie aujourd'hui du peuple de Dieu, il faut savoir que vous êtes vous aussi un descendant d'Abraham. On y arrivera un peu plus tard. Et donc, dans un sens, vous êtes aussi, selon le Nouveau Testament, des résidents temporaires et étrangers sur la terre. Vous pouvez voir cela dans 1 Pierre, chapitre 1, chapitre 2. Nous n'appartenons pas, au final, des chrétiens ici, dans ce monde. Nous ne sommes pas encore chez nous. Et cela signifie que nous ne cherchons pas à faire de ce monde l'endroit où nous devons réaliser tous nos rêves. Vous voulez que ça soit le cas avant votre mort, que tout arrive comme vous le souhaitez pour votre bonheur à vous? Alors vous allez trouver ce monde-ci une déception. Cela n'arrivera jamais pour les croyants en Jésus-Christ. De bonnes choses, oui, mais pas la réalisation de tous nos rêves. Nous ressentons toujours un peu de décalage entre notre identité en tant qu'enfant de Dieu, gracié, réconcilié à Dieu, membre de sa famille, désireux de vivre avec lui, pour lui, conscient de refléter les priorités, les valeurs de son royaume, tout en vivant en même temps dans un monde qui ne partage nullement ces mêmes valeurs. Et si nous nous rassemblons ici, le dimanche matin, c'est pour pouvoir être équipés ensemble pour vivre ensuite dans le monde, de faire des disciples de toutes les nations. Vous savez, Jésus envoyait ses disciples en mission à la fin de l'évangile de Matthieu, et il leur disait ceci, « Je suis avec vous dans cette mission que je vous confie de faire des disciples jusqu'à la fin du monde. » Tout comme Dieu est avec Jacob lorsqu'il descend en Égypte. La promesse donc de sa présence, la présence du Seigneur Jésus, se trouve lorsque nous nous engageons en tant que disciples dans la mission que Jésus nous a confié. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes souvent fragiles d'un point de vue émotionnel, n'est-ce pas? Nous pouvons saisir donc la promesse de la présence de Jésus à nos côtés, à tout moment, en pensant que c'est l'équivalent, je l'ai dit ici récemment aussi, que Jésus nous apporte un chocolat chaud après une journée émotionnellement difficile. C'est ça, la promesse de sa présence. Non. L'encouragement qu'il nous donne de sa présence, c'est plutôt comme un morceau de chocolat que nous gardons en bouche lorsque nous sommes en train de faire une longue ascension d'une montagne dans les températures très basses. Ouh, ça fait du bien d'avoir un morceau de chocolat à ce moment-là. Ce n'est pas la même chose, vous voyez, la promesse de sa présence. Et c'est fort encourageant qu'il promet d'être avec nous dans la mission que nous avons de vivre pour le Seigneur dans ce monde. Pourquoi cela? Parce que d'ici une heure ou deux, j'imagine un bon nombre d'entre nous, nous nous trouverons dans un contexte familial où Jésus-Christ n'est pas le centre, où on vous traite plutôt pour un religieux. On pense que soumettre aux valeurs de Jésus aujourd'hui fait preuve plutôt d'intolérance, d'obscurantisme. Peut-être pour d'autres, parmi nous, demain, au travail ou à l'école ou aux études, vous serez entouré par un tas de personnes qui n'ont pas la moindre pensée pour Dieu, qui se sert du nom de Dieu rien que pour jurer et qui ignore totalement que cela pose problème. Et parfois, je pense, nous trouvons cette double identité difficile dans le monde, mais pas du monde. Et donc, on peut se poser la question, mais est-ce vraiment le cas que Dieu est à mes côtés ici, dans ce contexte aussi difficile, que Dieu a un regard pour moi, que la réalité quotidienne de ma foi peut paraître très loin des joies de connaître Jésus-Christ et de faire partie de son peuple. Dans ce premier point, nous pousse à vouloir servir le Seigneur là où nous nous trouvons, sans oublier que nous ne sommes que des étrangers et des résidents temporaires dans ce monde. À travers les circonstances que Dieu il orchestre dans son ensemble, il accomplit son plan. Donc, n'ayons pas peur d'être des étrangers. Deuxième chose que je veux souligner, ne sous-estimons pas le peuple de Dieu, aussi insignifiant qu'ils ont l'air d'être. Et ils ont l'air insignifiants dans ce texte, chers amis. Combien de personnes descendent avec Israël, Jacob, en Égypte, 70 personnes, nous dit le verset 27 du chapitre 46. Il y a en fait une section que nous n'avons pas lue, nous avons sauté cette section-là du verset 8 jusqu'au verset 27, vous pouvez voir cela dans votre propre Bible, qui détaille tous les descendants de Jacob qui partent avec lui, tous les fils de Jacob, les 12 fils, qu'il soit de Rachel, son épouse bien-aimée, de Léa, de Zilpa, de Bilha, tous leurs fils à eux. Chacun est nommé. D'où vient l'importance de tout d'un coup toutes ces personnes? Pourquoi une telle liste qui coupe un peu le narratif? Parce que ça a coupé le narratif, nous l'avons sauté aussi. Parce que c'est moins passionnant que les retrouvailles de Jacob avec son fils Jacob qui vient par la suite, que nous avons lu. Mais Moïse, en fait, il fait exprès en écrivant ceci de nous arrêter ici pour saisir l'importance de ce qui arrive. Ce n'est pas simplement donc la liste de tous ces prénoms, une liste dont les chrétiens se servent aujourd'hui pour choisir le prénom de l'un de leurs enfants. D'ailleurs, je me suis toujours dit pourquoi on choisit plutôt Ruben dans le contexte chrétien que Judas, parce qu'on vient de voir dans les chapitres précédents que Judas, c'est un homme beaucoup plus digne de confiance que Ruben. Ce n'est pas pour dire que si vous vous appelez Ruben, il y a un problème. C'est très bien, ce n'est qu'un prénom. Okay? Mais il y a ici quelque chose de plus important que cela qui est en jeu. Non, comment commence cette liste, verset 8? Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. Il met l'accent ici dans cette liste sur le nom d'Israël, car ici c'est le début du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, racheté par Dieu. C'est le peuple d'Israël, le peuple issu de Jacob. Et à travers eux, Dieu réalisera en partie ses promesses à Abraham. Ils ne sont à ce stade rien qu'un petit nombre, mais ils deviendront un peuple nombreux en Égypte. Aux yeux du monde, à ce moment-là, ce n'est pas grand-chose ce qui a lieu, 70 personnes qui descendent en Égypte lors d'une famine. Mais dans le plan de Dieu, c'est immense ce qui a lieu ici. C'est fort important. Ce peuple joue un rôle central dans le plan de Dieu. Il n'y a pas longtemps, c'était le 20e anniversaire, n'est-ce pas, du 11 septembre. À chaque anniversaire du 11 septembre, aux États-Unis, ils lisent, j'imagine vous savez bien, à haute voix, la totalité des presque 3000 noms de ceux qui ont perdu leur vie ce jour-là. La cérémonie marque l'importance de l'événement, n'est-ce pas? Lors de la lecture de chaque prénom, chaque nom, il n'y a personne qui lève la main, qui dit « Attendez, mes amis, c'est un peu ennuyant cette partie-ci. On ne peut pas aller vers une anecdote un peu plus passionnante ?» Non, c'est solennel. C'est fait exprès pour marquer l'importance de ce qui a eu lieu. Alors, les versets 8 à 26 que nous avons sautés, nous, fonctionnent d'une façon similaire. Moïse nous dit « Arrêtez-vous ». Ne vous trompez pas. Ce qui a lieu ici, c'est important, c'est un marqueur. Même si cela aurait passé inaperçu de la part de ceux qui les entouraient. Et Moïse souligne ce point de l'importance de ce qui se passe d'une deuxième façon dans l'épisode qui suit cette liste de ceux qui descendaient en Égypte. Parce qu'il parle aussi des bergers, peu estimé en Égypte. Vous avez peut-être constaté cela lors de la lecture. C'est frappant, n'est-ce pas? Une fois qu'ils arrivent en Égypte, il y a bien sûr la joie des retrouvailles de Jacob avec son fils bien-aimé, Joseph. Il se jeta verset 29 à son cou et il y pleura. Cela pousse Jacob de dire que voilà, c'est bon, il peut mourir maintenant, enfin, en paix. C'est émouvant dans le narratif. Mais ce qui frappe, c'est que Joseph ne s'arrête pas un long moment avec cela. Il sait que les enjeux pour l'avenir de sa famille sont grands. Comment peuvent-ils, le peuple d'Israël, résider en Égypte tout en maintenant la propre identité israélite? Bon, il leur faut une grande parcelle quelque part de terre où les Égyptiens les laissent tranquille. Et Joseph a en tête cette région qui s'appelle Goshen. C'est la meilleure partie du pays d'ailleurs. Verset 11 du chapitre 47. Pour paître des troupeaux, il y a des terres fertiles dans cette partie du pays. Et à la fin du chapitre 46, le verset 34, nous comprenons que pour des raisons que nous ignorons, il faut le dire, les Égyptiens méprisaient le métier de berger. Est-ce qu'ils étaient trop sales? Ils n'aimaient pas l'odeur? Trop rude? On ne sait pas. On ne sait pas. Mais Joseph, il sait tout cela. Et donc, il a son plan. Il prépare à la fin du chapitre 46 ses frères. Ensuite, il prend 5 d'entre eux, peut-être les plus respectables, pour l'entretien avec Pharaon. Et lorsqu'il les prépare pour cet entretien, il leur dit « Mettez l'accent, les gars, sur le fait que vous êtes des simples bergers comme l'étaient vos pères. Nous ne savons rien faire d'autre que cela. Nous cherchons du pâturage. » C'est ça ce qu'il faut lui dire. Et donc, ils lui disent cela lorsqu'ils ont l'entretien. Et comment répond-il le Pharaon? « Oh, c'est vrai? C'est ça? Ah, ok, bah, dans ce cas-là, chapitre 47, verset 6, « Installe ton père et tes frères Joseph dans la meilleure partie du pays, qu'il s'installe au pays de Goshen. Si tu sais qu'il y a parmi eux des hommes de valeur, nomme-les responsables de mes propres troupeaux. Wow. » Ces hommes, selon Pharaon, constituent aucun danger pour l'Égypte. sans apprêture, rien que des bergers. Bien sûr qu'ils s'installent donc à Goshen. D'ailleurs, s'ils sont bons dans ce métier-là, ils peuvent prendre en charge mes propres troupeaux. Oui, c'est gracieux de la part du pharaon. Cela témoigne bien sûr de la confiance qu'il a en Joseph. Mais cette décision du pharaon, sans qu'il le sache, joue un rôle clé pour l'avenir de cette famille. Parce que c'est là où la famille grandira. Et 430 ans plus tard, cette famille sortira d'Égypte et le jugement de Dieu tombera sur l'Égypte. Pourquoi ? Car Pharaon et ses successeurs auront sous-estimé l'importance du peuple de Dieu. Ne sous-estimons pas le peuple de Dieu, aussi insignifiant qu'ils ont l'air d'être. Vous savez, nous pouvons toujours commettre cette erreur, chers amis. Nous regardons une église locale de l'extérieur. Il n'y a pas grand-chose d'impressionnant. Les choses importantes ont l'air d'avoir lieu loin d'ici, n'est-ce pas? Le COP 26 aura lieu prochainement à Glasgow. Il y a ici, à 2 kilomètres à peu près, la Commission européenne, Conseil européen et tout ce que cela implique. Il y a des sociétés internationales à Bruxelles avec des sièges pas loin d'ici. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On se réunit pas une fois par semaine et c'est le week-end, c'est le dimanche matin, c'est là où il n'y a rien qui se passe. Et vous vous réunissez où? Dans une école. On est content d'être dans une école, mais on ne peut pas dire que la salle est belle. Bon, excusez-moi si vous êtes de l'école et vous entendez ce que je viens de dire. Et vous avez combien d'employés dans cette église? Ah oui, un seul, bon, avec quelques bénévoles. Et pourtant, entendez bien ceci. Votre adhérence à l'église de Jésus-Christ déterminera votre destin pour toujours. Donc, vous traitez votre participation à l'église, même cette église locale, même ce matin, de quelle façon? Une corvée? Une due religieuse à entreprendre, peut-être pour satisfaire les autres? Peut-être une chose intéressante parmi d'autres, mais loin, il faut le dire, d'être le centre de ma vie. Une activité dont vous êtes spectateur. Il n'y a pas beaucoup de conséquences pour vous si vous venez ou si vous ne venez pas. Avoir un regard pareil du peuple de Dieu, vous ne vous rendez pas compte du danger dans lequel vous vous trouvez, les amis. Vous arrivez en retard à l'église, vous savez ce que ça dit? Ça veut dire, vous les autres, vous êtes à mon service. Moi, je suis consommateur. Ce n'est pas important pour moi de devenir acteur dans cette église. Je suis au-dessus de tout cela, vous savez. Vous faites les chaises pour moi, vous faites de la musique pour moi, vous faites le nettoyage pour moi, vous vous occupez de mes enfants. Évidemment, je ne parle pas forcément de notre église et pas d'autres églises. Je parle de l'attitude des chrétiens, des autres, par rapport à l'église locale. Pourquoi cela est un danger, les amis? 1 Corinthiens, chapitre 1, ce sont des versets très connus que nous n'avons pas dans le livret. Que dit l'apôtre Paul à la fin de ce chapitre 1 de 1 Corinthiens? Regardez, mes frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a pas parmi vous beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dieu a choisi ce qui est fou dans le monde pour faire honte aux sages. Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde pour faire honte à ce qui est fort. Dieu a choisi ce qui est vil dans le monde, ce qu'on méprise, ce qui n'est pas, pour réduire à rien ce qui est, de sorte que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Si nous pensons pouvoir faire le fier devant Dieu, que nous sommes plus importants que Dieu, que de son Église, que de son Fils crucifié, rejeté par les hommes, dans toute leur sagesse, alors, continue l'apôtre Paul, nous ne pouvons pas bénéficier de la sagesse de Dieu, de la justice de Dieu, de la sainteté de Dieu, de la rédemption qui vient de Dieu. Vous savez, je parlais cette semaine à un pasteur d'une église qui a vu, merci Seigneur, une augmentation d'effectifs dans son église depuis Covid. Merci Seigneur. Puis il m'a dit tout de suite après ceci, « Ouais, mais tu sais, ces personnes apportent la lot de problèmes aussi, n'est-ce pas ? Il n'y en a pas beaucoup qui n'ont pas de problèmes, je constate. » Et puis lui-même, il m'a cité ces versets d'un Corinthien que je viens de vous lire. « Car c'est à la gloire de Dieu de prendre ce qui est méprisé pour réduire à rien ce qui est. » Amen à cela. Ne sous-estimons pas le peuple de Dieu, aussi insignifiant qu'ils ont l'air d'être. Notre troisième et dernier point est celui-ci. Ne minimisons pas les bénédictions qui découlent d'Israël. Nous voyons cela lors de la suite de l'entretien qu'il y a entre Jacob et Pharaon. D'abord, donc, Pharaon, on voit, c'est le leader de la superpuissance de l'époque, l'Égypte. Et Pharaon, il faut le dire, fait preuve de beaucoup d'humilité en recevant Jacob, le père de Joseph. Il voit Jacob, âgé, fragile, il daigne de respecter le père donc, de Joseph, son serviteur. Et il pose la question, quel est le nombre des années de ta vie? Jacob lui répond de façon assez directe, la durée de ma vie d'immigré est de 130 ans. Les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises. Elles n'ont pas atteint la durée de ma vie, de la vie de mes pères, celle de leur vie d'immigré. Ouh, on lit ça et on se dit, peut-être c'est le côté un peu mélancolique de Joseph là qui parle, de Jacob qui parle. Il nous semble que peut-être 130 ans, c'est pas mal comme score. Mais par rapport à ses pères, c'est peu. Et oui, il a connu peu d'années faciles, Jacob. Nous l'avons suivi dans la série qui précédait celle-ci. Oui, il est en fuite à un moment donné de son frère, il est sous l'esclavage de son beau-père, il est contraint d'avoir une femme qu'il n'aimait pas. Ensuite, il passe 20 ans sans son fils bien-aimé. Ensuite, famine et déménagement. Oui, c'est dur, les années de sa vie. Mais la suite est étonnante, n'est-ce pas? Étant donné tout cela, on imagine qu'à ce moment-là, Pharaon prendra l'initiative pour soulager un peu le regret de cet homme. C'est ce que nous attendons. C'est le plus grand, le plus fort qui gracieusement bénit le moins fort, le moins grand. Mais non, ici c'est Jacob, malgré sa difficulté, qui lui bénit le pharaon. Nous avons affaire ici à deux hommes qui représentent deux nations. Pharaon représente l'Égypte. Jacob représente Israël. Et vous savez quoi? C'est à travers Israël, cet homme apparemment faible et peu impressionnant qui vient de la bénédiction pour l'Égypte. Verset 10, Jacob bénit le pharaon et il se retira de devant le pharaon. Et j'espère que cela nous mène, sans que ce soit forcé, vers un autre homme israélite, un homme de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Un charpentier crucifié sur une croix, qui lui aussi, ainsi, apportera la bénédiction pour le monde entier. ne minimisons pas les bénédictions qui découlent d'Israël. Si vous ne connaissez pas pour vous-même ces bénédictions-là, alors on vous exhorte d'aller plus loin, découvrir plus sur Jésus-Christ et les bénédictions que vous pouvez trouver en lui. Mais la suite de l'histoire, lorsque nous suivons ce qui se passe en Égypte, souligne effectivement que Joseph est une bénédiction pour des Égyptiens. La famine poursuit sa course. Ici, c'est la partie que nous avons sautée aussi. Joseph mène un programme pour pouvoir, aux besoins de tous, un programme de nationalisation des biens, si vous voulez. Certains voient ceci d'un mauvais œil, comme si ce récit était une forme de communisme, un programme de nationalisation des biens de tous qui rend chacun dépendant de l'État. Mais cette proposition permet plutôt, avec dignité, ici, dans les circonstances qu'il y avait, que le peuple reste en vie et continue à gérer avec responsabilité leur propre terre, même si, oui, maintenant, un cinquième de ce qu'ils ont revient au pharaon. Vous pouvez relire cela vous-même. Le peuple égyptien ne crie pas injustice par rapport à tout ceci, mais ils disent plutôt merci. Verset 25 du chapitre 47, ils disent « Tu nous rends la vie !» Puissions-nous toujours trouver grâce à tes yeux, mon Seigneur, nous serons esclaves du pharaon. L'Égypte, vous voyez, est bénie par Israël, par Joseph. L'Égypte, dans toute sa splendeur et sa puissance, n'arrivait pas à gérer la crise de la famine sans le secours qui vient de ce petit peuple insignifiant qui arrive chez eux grâce à un concours de circonstances dont Dieu seul est maître. Jésus-Christ est de la lignée d'Abraham. Vous savez, j'imagine cela. Les promesses à Abraham que toutes les nations seront bénies par lui arrivent à son accomplissement grâce à Jésus. C'est par la foi en lui que nous devenons membres aujourd'hui, du peuple de Dieu. En lui, par la foi en lui, nous trouvons la paix avec Dieu, la grâce de Dieu, l'espérance par rapport à notre avenir, une sécurité éternelle, le salut, la rédemption. Peut-être vous ignorez ceci, mais si nous vivons dans un monde où nous rejetons l'abus sexuel des enfants, où nous luttons contre l'esclavage et le racisme, des pratiques qui étaient tout à fait normales et acceptées par des hommes puissants au temps de l'Empire romain. Si aussi nous trouvons que la pratique de la sati, sacrifice hindou des veuves qui se jettent dans le bûcher crématoire de leur époux, si nous trouvons cela une horreur, aujourd'hui, c'est parce que le monde occidental a été béni par une compréhension de la dignité de chaque être humain qui découle uniquement de l'influence chrétienne dans ce monde. Ce sont des bénédictions dont bénéficie le monde occidental qui découlent directement de l'influence de la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans qu'on s'en rende compte aujourd'hui. Mais ces bénédictions-là, les amis, nous pointent le doigt vers la bonté et l'espérance d'un monde meilleur, de notre demeure céleste, que Jésus seul peut nous garantir. Jésus seul peut nous protéger de ce jugement catastrophique qui viendra lorsque lui, il viendra, pour rendre justice à nous tous. Donc ne soyez pas naïfs, chers amis, ici présents ce matin. Ne minimisons pas les bénédictions qui découlent d'Israël, de Jésus-Christ. Venez à lui pour en bénéficier. Et cela nous mène à notre conclusion que nous voyons dans les derniers versets du chapitre 47. Joseph, celui en qui les promesses se réalise partiellement. Verset 27, à la fin, Israël s'installa en Égypte, au pays de Goshen. Ils y furent propriétaires, ils furent féconds, ils se multiplièrent, ils devinrent très nombreux. Ce langage-là, cela vous rappelle de quelque chose? Oui, l'ordre que Dieu a donné à l'homme, d'abord l'ordre de la création. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Ensuite, Dieu a répété ce même langage à Abraham. Dieu a dit, je te multiplierai à l'extrême, je te rendrai extrêmement fécond. Des promesses répétées plus tard à Jacob lui-même au chapitre 35. Mais ici, voyez bien que ce n'est pas un commandement d'être fécond, comme cela a été lors de la création, ni une promesse que tu vas devenir une grande nation, mais c'est plutôt une réalité dans le présent. Cela arrive. Joseph, à la fin du livre, commence à voir les promesses réalisées. Mais elles sont bien entendu réalisées partiellement. C'est finalement en Jésus-Christ que toutes les nations seront bénies en Abraham. Et cela par la foi en Jésus-Christ, de sorte que ceux qui relèvent de la foi, nous dit le Nouveau Testament, sont bénis avec Abraham, l'homme de foi. Pour tous ceux qui se tournent par la foi, la même foi qu'Abraham, alors la bénédiction d'Abraham, c'est la leur en Jésus-Christ. Nous appartenons à Jésus-Christ par la foi et nous sommes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez, c'est en Jésus que ces promesses se réalisent pleinement, même si nous avons observé partiellement la réalisation lors de la vie de Joseph. Que sa descendance devient comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est au bord de la mer, se réalise grâce à Jésus-Christ et tous ceux qui placent leur confiance en lui. Mais on ne termine pas avec Joseph tout à la fin, mais avec Jacob une nouvelle fois. Jacob qui voit, verset 29, que sa mort approchait. Il demande, Jacob à Joseph, d'agir avec lui, avec fidélité et loyauté. Des mots qu'il plaidait à Dieu lui-même avant sa rencontre avec Ésaü, pour qu'il ne soit pas enseveli. En Égypte, c'est ça son souhait, de ne pas terminer ses jours en Égypte. Pourquoi? Car son regard à la fin n'est pas en Égypte, mais dans le pays que Dieu lui a promis. Oui, c'est en Égypte, sous le ministère de Joseph, que les promesses de Dieu commencent à se réaliser. Mais ce n'est pas pour autant que Jacob pense appartenir à Égypte. Non, il appartient au peuple de Dieu. Il est bénéficiaire des promesses de Dieu. C'est ça ce qui compte pour lui. Hébreux 11, verset 13, nous dit que c'est selon la foi que tous ceux-là, il parle des patriarches, sont morts sans avoir obtenu les choses promises. Cependant, ils les ont vus et salués de loin en reconnaissant publiquement qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Qu'est-ce qui comptait pour Jacob, son identité en tant qu'enfant de Dieu, enfant de la promesse? Qu'est-ce qui compte pour vous, chers amis? Est-ce que cela se voit, ce qui compte pour vous dans les décisions que vous prenez, dans l'emploi de votre temps? Et qu'est-ce qui compte pour nous en tant qu'assemblée? Cherchons-nous à proclamer de telles choses parce que nous sommes conscients de leur importance, bien que le monde nous trouve insignifiants? Ou est-ce que nous cherchons l'approbation de ceux qui nous entourent plutôt que de mettre en avant Jésus-Christ, celui en qui les promesses de Dieu ont leur oui et amen? Prions ensemble. Merci Seigneur pour le témoignage de ces deux chapitres, pour Joseph, pour Jacob, mais surtout pour Jésus-Christ, pour la joie de le connaître, d'être identifié à lui par la foi. Et donne-nous donc d'être des étrangers, des résidents temporaires sur cette terre, de comprendre l'importance de ce que toi tu es en train de faire parmi nous, et cela pour ta gloire. Donne-nous, Seigneur, de nous réjouir dans l'importance de l'œuvre de Jésus-Christ et de proclamer cette œuvre avec tout ce que nous avons. Nous te demandons cela au nom de Jésus. Amen.